Il est 7h.
La lutte contre les trafics de stupéfiants s'apparente à une guerre. Cette guerre, nous la menons grâce à des soldats. Aujourd'hui, un de ces soldats est mort en héros pour nous protéger.
Gérald Darmanin à Avignon hier, après la mort d'un policier lors d'une intervention anti-stup, le tireur a pris la fuite. Il est activement recherché. Pas de contrôle continu à 100% pour le bac, mais des aménagements annoncés hier soir par le ministre de l'Éducation nationale. Le détail dans un tout petit instant. À un an de l'élection présidentielle, la crainte d'un avenir sombre pour la France, Nicolas Sarkozy appelle les dirigeants et responsables politiques à porter une vision ambitieuse pour le pays. Interview ce jeudi dans le magazine Le Point. À suivre aussi, les États-Unis favorable à la suspension des brevets sur les vaccins anti-Covid et des terrasses déjà bien remplies à 2 semaines de la réouverture. Juste après ce journal, l'éclairage éco avec Nicolas Barré.
Les relations économiques se tendent entre l'Europe et la Chine. Plus question de se laisser faire, la ligne dure est en train de l'emporter.
Juste avant le regard international de Vincent Hervouette, l'édito sport de Virginie Fulpin et puis avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Oui, se dorer la pilule, ça vient d'où cette expression? Je parle pas pour vous hein, Mathieu.
Non bien sûr, la réponse, l'expression dans une dizaine de minutes. Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il s'appelait Eric, il avait 36 ans. Ce policier, père de 2 enfants, est mort hier à Avignon au cours d'une intervention sur un point de trafic de drogue. Bonjour Guillaume Bier.
Bonjour.
Le policier tué par balle lors de cette opération. Que sait-on précisément, Guillaume, des circonstances du drame ?
Écoutez, c'est une intervention qui s'est décidée à la dernière minute, qui n'était pas prévue en fait. Avec ses collègues, ce policier en civil revenait d'une opération anti-drogue à Carpentras. Mission terminée, retour au service. Mais arrivé à Avignon, eh bien, il est appelé pour venir en renfort parce que des habitants ont signalé qu'un petit groupe de perturbateurs s'agitait autour d'un point de vente de drogue bien connu du centre-ville. Alors les policiers arrivent, ils assistent effectivement à une transaction de stupéfiants en flagrant délit. Voilà pourquoi ils décident de contrôler les suspects en vue de les interpeller, mais l'un des trafiquants sort une arme de poing et il tire immédiatement sur le policier juste devant lui. Touché de plusieurs balles au thorax, le brigadier de 36 ans s'effondre et succombe à ses blessures malgré les efforts des secouristes. L'un de ses collègues riposte, ouvre le feu à son tour, mais sans toucher le meurtrier qui parvient à prendre la fuite et qui reste donc activement recherché par les enquêteurs de la police judiciaire.
Les précisions de Guillaume Bier pour Europe 1.
Des centaines de policiers étaient d'ailleurs mobilisés hier soir dans le centre-ville d'Avignon. Les forces de l'ordre, une nouvelle fois endeuillées près de 2 semaines après l'attaque au commissariat de Rambouillet.
Une nouvelle illustration des menaces qui pèsent sur la profession pour Vincent Hatt du syndicat alternatif police CFDT dans la région.
C'est bien entendu la colère qui nous étreint puisque, encore une fois, on peut s'apercevoir que partout en France aujourd'hui, un policier n'est à l'abri nulle part. Malheureusement, nos collègues avignonnais, même si beaucoup d'entre eux ont fait la banlieue parisienne, je peux vous dire que ce n'est vraiment pas le quotidien des collègues. Et là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est de l'incompréhension, c'est terrible, c'est horrible. C'est un fonctionnaire qui était très apprécié de tout le monde, de la hiérarchie, de ses collègues de travail, un collègue qui était enjoué, c'était quelqu'un de génial, quoi. Beaucoup de collègues hors service viennent, bien entendu, pour soutenir les collègues qui étaient présents. Pour une ville comme Avignon, c'est terrible.
Entre émotion et colère, donc, le représentant du syndicat Alternative Police CFDT dans le Vaucluse avec Chloé Triomphe pour Europe 1. Sur place, hier soir, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a qualifié de guerre la lutte contre les trafics de stupéfiants. Le Premier ministre, lui, a assuré que tout était mis en œuvre pour que cet acte odieux ne reste pas impuni.
7h04 sur Europe 1. Ce sera donc 82-18 pour la note finale du 82% de contrôle continu et 18% pour les épreuves écrites et orales.
Qui sont maintenues, contrairement à ce que demandaient syndicats et lycéens. Virginie Riva, hier soir sur France 2, le ministre de l'Éducation nationale a toutefois présenté des aménagements, notamment pour la philo. En fait, c'est la meilleure note qui sera retenue entre l'écrit et le contrôle continu.
Oui, effectivement, c'est la décision la plus forte. On ne conserve que la meilleure des deux notes. Le candidat pourra également choisir entre 4 sujets au lieu de 3, précision apportée plus tard hier soir par le ministère. Pour le grand oral, qui est l'épreuve redoutée par tous les lycéens puisqu'ils essuient les plâtres, un seul vrai aménagement déjà annoncé par Jean-Michel Blanquer sur Europe 1 lundi soir, la possibilité donnée à l'élève de présenter au jury une fiche remplie par l'un de ses 2 professeurs de spécialité, précisant les points de programme qui n'ont pu être vus afin de limiter le risque d'impasse. Point important pour l'élève, il pourra également conserver ses notes pour parler à l'oral. Enfin, pour les premières, pour l'oral du bac français, l'élève pourra là aussi présenter une fiche remplie par son prof de français et pourra choisir entre les deux textes retenus par le jury, celui sur lequel il veut être interrogé. Des filets de sécurité bienvenus pour l'UNSA, même si les syndicats qui demandaient la totalité du bac en contrôle continu n'ont pas obtenu satisfaction.
Et hier soir, le mouvement national lycéen regrettait un bricolage du ministre de l'Éducation nationale.
La politique et ceux qui doutaient que l'élection présidentielle était déjà lancée peuvent se rhabiller, c'est bien dans cette perspective hein, qu'il faut lire aussi aujourd'hui l'interview de Nicolas Sarkozy dans le magazine Le Point. Une interview que vous avez réalisée. Sébastien Le Foll, bonjour.
Bonjour.
Une interview principalement axée sur l'international, mais aussi sur le rapport de la France à son histoire, le regard que nous portons sur notre passé. Finalement, quand on vous lit, on est encore dans la séquence Napoléon.
Ah, totalement. Nicolas Sarkozy a saisi effectivement cette occasion. Il voulait s'exprimer sur la remise du rapport de l'historien Vincent Duclerc sur le génocide rwandais et sur les responsabilités de la France, hein, en tout cas l'aveuglement de la France au moment de ces faits. Et effectivement, la tentation était grande de parler du passé, de l'histoire, mais pas seulement, puisque finalement, il nous parle beaucoup d'aujourd'hui, hein, Nicolas Sarkozy, et de l'estime que ce pays a pour lui-même.
Oui, il utilise des mots très durs, d'ailleurs, hein, pour qualifier la situation, l'état actuel de la France.
Il est inquiet, c'est, je dirais, le sentiment qu'on a eu. Il est à la fois en forme, hein, il se décrit comme un retraité, d'ailleurs sans trop croire à ce mot, puisqu'il en sourit. Il est inquiet de la situation politique, il est inquiet du déclin de l'Europe et de la France. Hein. Il a fait le parallèle avec la crise financière hein, de 2008. Il disait qu'à l'époque, l'Europe avait des solutions aux crises. L'Europe ne les a plus, il juge humiliant hein, l'échec de la vaccination.
Oui. Il verbalise aussi une crise d'autorité hein, dans l'interview.
Crise d'autorité générale d'ailleurs, hein, car la conversation a débuté à la fin des vacances de Pâques et elle s'est poursuivie à Paris notamment. Elle a tenu compte de l'attentat de Rambouillet hein, notamment. Et ça, c'est effectivement une forte inquiétude chez lui. La déliquescence de l'autorité de manière générale, la crise de la transmission. Dans la société française, c'est son sujet de prédilection.
Oui, crise de civilisation aussi, l'inquiétude de Nicolas Sarkozy que vous soulignez. L'ancien chef de l'État, finalement, Sébastien Le Foll, qui se montre dans cette interview assez bienveillant à l'égard d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un soutien en creux au président à un an de la présidentielle ?
Je crois pas du tout. D'ailleurs, le seul moment où il évoque le nom d'Emmanuel Macron, c'est au sujet du Rwanda, puisqu'il l'invite à faire un geste, à se rendre au Rwanda, car lui est le seul président français à avoir fait le voyage. Mais il n'en parle pas du tout dans la partie de l'entretien sur la France. Hein. Le nom n'est pas prononcé une seule fois, donc je pense pas qu'on puisse voir un quelconque soutien dans ce texte.
Pour le moment.
On l'a senti quand même très sceptique, dubitatif sur la situation politique et l'incapacité des acteurs en présence d'incarner une vision ambitieuse, comme il dit, seule à même de mobiliser les énergies.
Oui, oui, oui. Ambition, mobiliser les énergies, c'est là peut-être qu'on a vu quelques mots macroniens. Mais merci en tout cas Sébastien Le Foll, directeur du magazine Le Point, vous qui avez réalisé cette interview de Nicolas Sarkozy. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin dans le journal de 7h d'Europe 1.
Et lui n'a pas de mots assez durs contre le chef de l'État dans le Figaro ce matin. Xavier Bertrand dépeint Emmanuel Macron en calculateur froid et destructeur qui met en place les conditions objectives de la victoire de l'extrême droite. Xavier Bertrand qui pourrait bien devoir affronter sur ses terres le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, aux prochaines régionales. On y reviendra hein, tout à l'heure dans le journal de 8h.
Il est 7h09 sur Europe 1. Votre journal se poursuit. Dans un instant, on va revenir sur ces témoignages qui ont fait vaciller Nordal Lelandais hier dans le procès du meurtre d'Arthur Noyer. Mais d'abord, direction les États-Unis.
Qui se disent et qui se montrent prêtes à prendre leur part alors que de nombreuses institutions internationales appellent à un meilleur partage des vaccins pour faire face à la pandémie. Alexis Guillot, vous êtes à New York pour Europe 1. Les autorités américaines se disent favorable à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid.
Oui, les circonstances exceptionnelles appellent à des mesures extraordinaires. Déclaration hier de la représentante américaine au commerce. Les États-Unis croient fermement à la propriété intellectuelle, précise-t-elle, mais soutiennent la levée de ces protections pour mettre fin à la pandémie. Alors depuis plusieurs mois, Washington a plutôt été un frein dans ce dossier, mais Joe Biden était sous pression internationale, notamment de l'Afrique du Sud et de l'Inde, deux pays touchés par des variants virulents, et par une centaine d'élus de son propre camp, des démocrates, qui plaidaient également pour une levée des brevets. Les États-Unis vont donc participer activement aux négociations au sein de l'OMC, mais ça va prendre du temps car il faut trouver un consensus. En tout cas, le patron de l'OMS a lui salué un moment historique en faveur de l'équité vaccinale. Pas de réaction du côté de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, les trois grands laboratoires américains qui détiennent la propriété intellectuelle sur les vaccins. La Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique parle, elle, d'une décision décevante qui est une réponse simple mais fausse à un problème complexe. D'ailleurs, le cours des actions des géants pharmaceutiques a chuté hier à Wall Street.
Alexis Guilleux, à New York, pour Europe 1, on évoquait l'Inde qui a enregistré de son côté un nouveau record, près de 4000 décès en 24 heures et 412 000 contaminations.
En France, les indicateurs passent au vert et le déconfinement se prépare, notamment dans les bars et restaurants. Ces établissements voient les réservations affluer à moins de deux semaines maintenant de la réouverture de leurs terrasses. Pour Europe 1, Maud Descamps.
Pour le 19 mai, Michael Fox a déjà tout prévu pour accueillir les clients sur les terrasses de ces deux restaurants parisiens dont les carnets de réservation se remplissent à vue d'œil.
Aujourd'hui, on a eu 30 réservations. 30 réservations, ça ne veut pas dire 30 personnes, ça veut dire au moins 60 personnes pour le 19. En fait, comme si c'était un jour historique, on a pas mal de réservations pour le soir. Donc on essaye de mettre en place un service qui commence à 18h.
Même phénomène sur les plateformes de réservation en ligne depuis l'annonce du calendrier de déconfinement, constate Damien Rodière, DG de The Fork, anciennement La Fourchette.
On a multiplié par 10 le volume de réservation entre le 28 et le 29 avril. Et cette tendance se confirme au fil du temps, puisqu'elle s'accélère même. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà plusieurs milliers de réservations sur tout le territoire pour ne serait-ce que pour la soirée du 19 mai. Tous les restaurants nous disent c'est en train de se remplir massivement. Et je crois que, évidemment, les restaurants les plus courus sont déjà pleins.
Deux craintes demeurent néanmoins chez les restaurateurs. D'abord, une mauvaise météo, mais aussi les no-show, ces clients qui décident de ne pas venir sans annuler leur réservation.
Maud Descamps. La pression politique n'avait pas suffi, mais la pression économique changera-t-elle la donne? Près de 40 distributeurs européens principalement, dont l'allemand Aldi ou le britannique Marks & Spencer, menacent le Brésil de boycotter ses produits agricoles s'il ne retire pas un projet de réforme agraire qui risque d'accélérer, selon eux, la déforestation de l'Amazonie.
Le procès de Nordal Lelandais et l'accusé qui a failli basculer hier face au témoignage de ses proches.
Des amis qui l'ont exhorté à dire la vérité sur la nuit du meurtre d'Arthur Noyer. Compte rendu d'audience avec Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
C'est d'abord Alexandra, une amie, qui s'adresse à l'accusé. Elle raconte qu'elle a passé la soirée du 13 avril avec le Landais. Elle le décrit ce soir-là comme joyeux, prévenant, super agréable, alors que seulement 36 heures auparavant, il tuait Arthur Noyer et se débarrassait de son corps. « Dis ce qui s'est passé », le supplie-t-elle en le regardant. « Tu le sais au fond de toi, tu dois le dire ». Face à elle, le Landais est visiblement touché. Il lui dit qu'elle a raison, qu'il dira la vérité, mais ne va finalement pas plus loin. C'est ensuite Nazim, son grand pote. Il faisait partie de ma famille, il connaissait ma mère, ma femme, ma sœur, ma fille, il venait chez moi quand il voulait. Aujourd'hui, ce n'est plus mon ami. Puis se tournant vers le Landais, soulage-toi de la vérité, tu dois être courageux, par respect pour toi-même, arrête ce cinéma et dis ce qu'il y a à dire. À nouveau, Nordal Lelandais est ému. Quelques sanglots, il dit qu'il a honte de lui, mais ses mots ne vont pas plus loin. Deux témoignages sur le meurtrier de son fils qui ont beaucoup touché Cécile Noyer, la mère d'Arthur.
Je suis émue, moi, par tous ces témoignages. Les copains de Nordal Lelandais qui l'ont aimé, qui se sentent trahis, qui ne comprennent pas. Et ils ont tous été d'une dignité. Et je les remercie.
Cécile Noyer qui doit aujourd'hui témoigner à la barre en compagnie de son mari et de leur fils Quentin. Chambéry, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Près de 300 personnes réunies hier à Mérignac, près de Bordeaux. Rassemblement en hommage à cette femme de 31 ans, mère de trois enfants, brûlée vive par son ex-compagnon mardi. Un homme qui avait déjà été condamné pour violence conjugale et contre lequel elle avait encore porté plainte en mars dernier.
Du football à présent, et ce sera donc une finale 100% britannique en Ligue des Champions. Chelsea a rejoint hier Manchester City.
Après une victoire 2-0 contre le Real Madrid, une qualification qui sonne comme une revanche pour l'entraîneur Thomas Tuchel. Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est une belle revanche pour Thomas Tuchel qui avait été écarté du PSG la veille de Noël. Quelques semaines plus tard, courant janvier, le technicien de 47 ans retrouvait déjà un club. Thomas Tuchel remplace alors la légende de Chelsea, Frank Lampard. L'ancien coach parisien prend vite ses marques. Il faut dire qu'il retrouve là-bas son ancien capitaine du PSG, Thiago Silva, et quelques compatriotes allemands comme Timo Werner. Si à Paris, Thomas Tuchel chouchoutait les stars, à Londres, le nouvel entraîneur n'hésite pas à prendre des décisions fortes, comme écarter le champion du monde Olivier Giroud, désormais remplaçant. Après des débuts canons, les fans sont conquis. Chelsea enchaîne 15 matchs sans défaite avant de connaître un premier revers. Les Blues, emmenés notamment par N'Golo Kanté, sont métamorphosés, se qualifient pour la finale de la Coupe, enchaînent les victoires en Ligue des Champions. Le 29 mai prochain à Istanbul, les joueurs de Thomas Tuchel affronteront Manchester City, qu'ils avaient battu en Coupe il y a 3 semaines. Objectif: remporter la 2e Ligue des Champions de l'histoire de Chelsea.
Et cette finale, Chelsea face à Manchester City, ce sera le 29 mai prochain. Enfin, à l'heure de la lutte contre les gaz à effet de serre, les sports mécaniques ont-ils encore un avenir ? La Fédération internationale de l'automobile, en tout cas, veut y croire. Elle a annoncé hier que le championnat du monde des rallyes utilisera à partir de l'an prochain à 100% un carburant durable après avoir déjà opté pour l'adoption de moteurs hybrides.
Merci beaucoup Marion Calais. On écoute le monde changer du début à la fin de ce journal. Marion, merci beaucoup. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.